Le mot d'ordre ici, c'est de marcher. Nous sommes dans cette deuxième partie pratique de la lettre de Paul. Et ici, il les appelle les chrétiens à marcher. Verset 2, marcher dans l'amour. Verset 8, marcher comme des enfants de lumière. Et c'est encore le même mot grec, en tout cas, en verset 15, quand il dit « prenez garde de vous conduire, de marcher avec attention, marcher avec circonspection, avec sagesse ». Donc, marcher dans l'amour, marcher dans la lumière, marcher dans la sagesse. Et puis, toute cette partie de la lettre commence, chapitre 4, verset 1, il dit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » On a vu ce verset 17 la semaine dernière. « Vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » Donc, ce matin, ce sera la grande marche. Notre Église aime la marche, bon, la course aussi, mais ce matin, on va se contenter de la marche. L'image est très basique, très simple, mais pertinente pour décrire la vie chrétienne, une marche chrétienne. Il y a quelque chose dans la marche qui est hyper simple. C'est une des premières choses qu'on apprend à faire dans la vie. Ce n'est pas quelque chose qu'on arrête de faire ou qu'on oublie de faire, normalement, jusqu'à la fin de notre vie. Marcher, c'est mettre un pied devant l'autre, c'est tout ce qu'on demande. Et c'est un pas à la fois, et un pas à la fois, on arrive à faire de grandes distances. C'est une image simple, c'est l'image que Paul prend pour la vie chrétienne, une marche. Heureusement, il a pris cette image de la marche, et pas l'image de faire du monocycle en jonglant. Ce serait plus compliqué, mais tout ce qu'on vous demande, tout ce qu'on nous demande, c'est de marcher. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Et quand on lit ces chapitres, qu'en Éphésiens, c'est cette partie pratique de la lettre, on est frappé de la simplicité des choses qu'ils demandent lorsque les chrétiens veulent mettre en pratique leur foi. On a vu la semaine dernière, il dit « ne mentez pas », par exemple. Ensuite, il dit « domptez votre colère ». Il dit « travaillez pour ne pas voler, ni aux voisins, ni à l'État ». Il dit d'autres choses assez basiques, « aimez votre conjoint ». Voilà, c'est... Pour Paul, c'est ça la vie chrétienne. Et il y a une absence notoire des rites religieux qu'on associe souvent à la foi à la religion. Mais dans cette lettre, nulle mention de grands pèlerinages à faire, des jeûnes prolongés dans la prière, des heures particulières, d'une manière particulière de prier. Non, la vie chrétienne pratique, la vie chrétienne normale, concerne des choses plutôt basiques et simples. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est telle la marche qui est aussi simple. La marche aussi, dans cette image de la marche, ça invoque le progrès, le mouvement, l'action. Ce n'est pas une action spectaculaire, mais c'est constant. Et c'est ça la vie chrétienne. On célèbre la persévérance, le progrès. Ce matin, c'est l'occasion pour nous tous de s'interroger, est-ce que je suis en marche avec Dieu? La fontaine a rendu hommage à la valeur de la marche avec sa tortue. Et on aimerait plutôt une église remplie de tortues qu'une église remplie de lièvres. Dans la marche, bien sûr, on peut trébucher, on peut tomber, mais on se relève. On peut être fatigué, mais avec l'aide des autres, on continue. Et c'est ça la vie chrétienne. Jésus aussi a indiqué que la vie avec lui sera une marche. Lorsqu'il a dit ces paroles un peu célèbres, il a dit « entrez par la porte étroite ». Car large est la porte qui mène à la perdition, mais il a aussi parlé d'un chemin. Il a dit, prenez le chemin étroit et pas le chemin large. Et étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y a peu qui les trouvent. Donc il a parlé d'un chemin qui est resserré avec lui, mais qui mène à la vie. Et en tant que chrétien, être chrétien, c'est entrer par la porte étroite qui est Jésus, mais c'est aussi continuer sur le chemin qui trace pour nous et marcher sur ce chemin. Un chemin étroit n'est pas forcément plus difficile qu'un chemin large. En tout cas pour moi, en randonnée, je préfère les chemins étroits que les chemins larges. Je les trouve plus jolis, plus sympathiques. Un chemin large peut monter raide, être rocailleux, comme on a vu au lac d'eau cette semaine. Ou bien un chemin étroit peut passer par une vallée agréable, un champ agréable. Donc, on n'est pas en train de dire qu'un chemin étroit, c'est forcément plus désagréable qu'un chemin large. Nous croyons que la vie chrétienne a des passages difficiles comme des passages agréables, tout comme un chemin large. Donc il ne faut pas se dire que la marche chrétienne ou la marche dans la sainteté est forcément pénible et que la marche mondaine, la marche dans le péché, est forcément agréable. Le choix, ce n'est pas entre quelque chose d'agréable et quelque chose de désagréable. C'est le choix, c'est entre quelque chose de vrai et de pur et avec Dieu ou quelque chose sans Dieu. Mais là où c'est vraiment le défi pour nous, et c'est là où on arrive à vraiment notre passage, c'est que le chrétien dans cette marche, c'est sûr que c'est une marche qui est à contre-courant du monde. Et Paul veut aider les chrétiens éphésiens en lui disant, oui, le monde va dans un sens, et maintenant vous en tant que chrétien, vous allez dans un autre sens. Et c'est là qui va être le défi pour nous, de marcher à contre-courant du monde. Lorsque vous êtes quelque part qui est bondé du monde, comme dans un métro ou bien un jour de défilé, c'est assez facile à marcher dans le même sens que la foule. Vous êtes plutôt emporté par la foule et ça avance. Mais si vous faites demi-tour et vous voulez aller dans le sens inverse, là c'est un peu pénible, un peu difficile. Ça, c'est la vie chrétienne. Justement, la Bible enseigne qu'on devient chrétien par la repentance. Par la foi et la repentance. Et la repentance dans la Bible, c'est simplement faire demi-tour par rapport au péché et se tourner vers Jésus. Mais une fois qu'on fait demi-tour et la foule va toujours dans le sens inverse, là, on doit marcher à contre-courant. Et Paul va nous aider donc ce matin à cette marche chrétienne, cette vie chrétienne, en nous donnant quelques principes. Et ces principes, nous les avons vus, c'est marcher dans l'amour, c'est marcher dans la lumière et c'est marcher dans la sagesse, la circonspection. Alors j'aimerais prendre ces points, les aborder ensemble avec vous. Pour changer, je vais les aborder en commençant avec le dernier dans notre texte et en remontant vers le début de notre texte, verset 1. Donc nous allons voir ce matin qu'il faut marcher dans la sagesse, ensuite dans la lumière et ensuite dans l'amour. Nous allons appliquer ces principes surtout à l'éthique sexuelle chrétienne, qui est le souci principal de Paul dans ces versets, je pense, où il essaie d'aider les chrétiens à Éphèse, qui vivent dans une ville, un monde bien débauché, et ils veulent les aider à marcher autrement, à contre-courant de ce monde et de ses pensées. Donc nous aussi, en tant que chrétiens, nous voulons marcher dans la sagesse, dans la lumière et dans l'amour. Et ça peut aider. Ces principes peuvent nous aider à comprendre et à aimer l'éthique de la Bible, notamment en ce qui concerne notre sexualité. Tout d'abord, il dit, donc si on commence vers le bas de notre texte, dans les versets 15 à 17, il nous donne des principes pour marcher dans la sagesse, de se conduire de manière sensée, de manière considérée. Vous voyez ces mots voilà, pas comme des insensés, pas de manière inconsidérée, mais il demande une sagesse de discerner, de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Et tout ça, il dit en verset 16, « Car les jours sont mauvais. » Et en fait, à plusieurs reprises, la Bible nous demande de discerner et de comprendre les temps dans lesquels nous vivons pour savoir comment se comporter. Et ici, Paul dit aux Éphésiens, les jours sont mauvais. Alors, dans un sens, quelle que soit l'époque que nous vivons, on peut toujours dire que le monde va mal et que les jours sont mauvais. Mais sans oublier que la foi chrétienne est une foi foncièrement optimiste et remplie d'espérance à cause de la résurrection et du retour de Jésus-Christ, je crois que nous, aujourd'hui, notamment en Europe, on peut prononcer le même bilan que Paul prononce ici sur notre société, sur notre culture. Les jours sont mauvais. Jamais une société a connu un renversement si rapide de ses valeurs et de ses normes que notre génération, notamment à cause de la révolution sexuelle des années 60 et 70. Notre société post-chrétienne se retrouve dans le même contexte que la société pré-chrétienne de Paul. Une société post-chrétienne et une société pré-chrétienne se ressemblent parce qu'ils ne vivent pas les principes de Dieu et la lumière de Jésus-Christ. Alors là, c'est une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle pour nous qui vivons à notre époque ici en Europe, en France. La mauvaise nouvelle, c'est que les valeurs du monde et les valeurs chrétiennes vont être de plus en plus en opposition les unes contre les autres. avant, il y a 50 ans, on bénéficiait quand même d'une conscience chrétienne dans les mœurs et dans les valeurs, même s'il n'y avait pas les individus lutter avec les mêmes péchés, les mêmes problèmes. Aujourd'hui, la société bénéficie plus de cette conscience chrétienne, on n'a plus les repères, et donc les valeurs chrétiennes, le comportement chrétien va de plus en plus être en opposition avec le monde. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, si c'est une bonne nouvelle quand même, c'est qu'on se retrouve dans le même contexte que les premiers chrétiens, l'apôtre Paul, les Éphésiens, et du coup là, ces instructions sont pertinentes, et puis là, l'évangile aura l'occasion de briller de manière encore plus lumineuse, puisque les ténèbres sont encore plus prononcées. Ça, c'est la bonne nouvelle, si ça peut vous encourager. Mais comme vous voyez en verset 17, il dit « C'est pourquoi, à cause des jours que nous vivons, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Et là, on a un principe général, c'est que la Bible nous donne des principes généraux et nous demande de comprendre nous-mêmes, comprendre quelle est la volonté de Dieu pour notre époque, notre vie, notre situation. Donc la Bible donne ses principes généraux et à nous, avec la sagesse, les considérations, de les appliquer à notre situation. Imaginez que vous êtes chez des amis, c'est pendant l'hiver, la chaussée est couverte de verglas et vous êtes sur le point de partir, rentrer chez vous et donc vos amis vous disent « Rentrez bien, mais surtout faites attention sur la route ». Alors là, ils vous donnent un principe général, et c'est amical de leur part, faites attention sur la route. Ils ne vous disent pas, bon, faites 50 km en ville, faites moins de 70 sur les nationales, arrêtez à chaque feu rouge, démarrez quand c'est vert. Non, ils vous donnent un principe général, faites attention sur la route parce qu'il y a du verglas, notamment ce soir. Donc vous partez fort de cette pensée, et ça peut vous protéger parce que vous savez que ce soir-là, il faut faire attention, notamment prendre les virages peut-être un peu plus au ralenti à cause du verglas. La Bible, ce passage, est le même appel. Faites attention. Circonspection, le mot c'est soin, c'est attention. Donc il nous demande de conduire avec attention dans notre situation. Alors c'est quoi le verglas pour nous aujourd'hui? Moi je dirais, en tout cas un des verglas, c'est la pornification de notre société et l'abandon de l'ordre créé en ce qui concerne le mariage et la sexualité. Ça, c'est le verglas, un des verglas en tout cas, que nous devons gérer. Alors, la Bible dit « faites attention ». Et c'est un conseil amical. Quand on est en marche et qu'on doit passer par un chemin, un passage difficile, c'est glissant peut-être, il y a de l'eau, il y a de la boue, comme ces moments où sur notre randonnée de jeudi, voilà, il y a un ruisseau, il faut traverser le ruisseau et on s'appuie sur quelques cailloux placés dans la rivière, mais ces cailloux sont mouillés, alors on fait attention, il y a les enfants. À ces moments, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on s'agrippe, déjà on regarde bien où on met le pied. Peut-être un frère donne la main pour aider les autres à traverser. Ou s'il y a un rambard ou un garde-corps, on s'agrippe à ces choses. C'est pas une faiblesse de faire ça, c'est on fait attention. C'est ça que Paul nous dit de faire. À cause des jours que nous vivons, faites attention, regardez bien où on met le pied. Se conduire avec circonspection, c'est ça. Alors je vous demande, donc, quelles sont les précautions, quelles sont les protections, quelles sont les rambardes dans votre vie pour ne pas chuter, notamment sexuellement? Quelles sont les considérations, quelles sont les réflexions pour ne pas être emporté ou séduit par les nouvelles définitions de notre monde dans ce qui concerne ce que c'est d'être un homme, ce que c'est d'être une femme, le rôle de chacun, la sexualité. Voilà un peu le verglas de notre époque et pourquoi Paul dit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. » Principe suivant, c'est marcher dans la lumière. Ça aussi, ça va nous aider. Marcher dans la sagesse. Marcher dans la lumière, ça c'est les versets 8 à 14. Marcher comme des enfants de lumière. Et puis donc, il exploite cette image de la lumière et des ténèbres. Alors la lumière et les ténèbres, c'est une image très connue, très classique, pour évoquer le bien et le mal, le vrai et le faux, l'ignorance et la connaissance. Cette image ne se limite pas à la Bible, hein. Beaucoup d'autres personnes, d'autres philosophes ont repris cette image de la lumière et les ténèbres, mais la Bible le prend aussi pour nous aider à comprendre comment marcher avec Dieu. Et je pense que c'est une image encore qui peut nous aider dans notre marche chrétienne, quand on pense aux effets de la lumière et comment elle agit pour chasser les ténèbres. Verset 13 notamment, il dit quand tout ce qui est éprouvé apparaît quand on met la lumière. Et le mal devient visible quand on met la lumière. C'est vrai, quand on allume une lumière dans une pièce, que ce soit une cave peut-être, ou une pièce qui a tendance d'être ténébreuse, là parfois voilà, il y a une souris ou des souris ou des cafards, tout ça. À ce moment, ils se cachent vite et ils n'aiment pas la lumière, ils ne sont pas habitués à la lumière. Alors, si on veut que les cafards restent, on éteint la lumière et on ne fait rien. Si on veut que les cafards ne reviennent pas, déjà, on laisse la lumière et ça va les décourager. Ou bien vous soulevez un rocher dans le jardin, il y a plein de fourmis ou plein de ces pincerets, ces petites bêtes qui. Là, si vous remettez le rocher, ils sont contents. Si vous ne remettez pas le rocher, ils doivent se débrouiller, se cacher. Eh bien, pour nous, le péché dans notre vie, comme ça, la présence de Christ, c'est cette lumière. Et quand on vient à Christ, il allume la lumière. Cette lumière jaillit sur les recoins du cœur, les différentes pièces dans notre cœur, et montre ces péchés qui sont comme des cafards, comme des saletés, et ça apparaît en pleine lumière. Et avec Christ, on peut laisser cette lumière allumée et il ne revient plus. Et là, il cite en verset 14 notamment, c'est pour ça qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. La conversion, le salut, c'est être éclairé par Jésus-Christ. Alors cette citation, on se demande si ça vient d'un collage d'idées du prophète Ésaïe, ou bien c'est peut-être un cantique aimé par les chrétiens de cette époque, un cantique de baptême par exemple, où il rappelait que l'appel de l'évangile, c'est être réveillé, être éclairé par Jésus-Christ. Et il va encourager ces chrétiens, maintenant que vous avez été éclairés par Jésus-Christ, restez dans cette lumière. Vous êtes lumière, marchez dans cette lumière. Ne réteignez pas la lumière pour que les cafards reviennent. Donc, et ça, c'est comme ça que ça marche. Si on aime le péché, c'est sûr qu'on reste loin de Christ, loin de sa parole, loin de son Église, parce que on sait que ces choses, sa parole, son Église, sa présence, risquent d'éclairer ces choses qui ne devraient pas y être. Alors Paul nous encourage à marcher dans la lumière. Et c'est quoi ça ? Bien, c'est vivre avec une certaine transparence devant Dieu, devant les frères et les sœurs de l'Église. Et c'est ça qui nous aide, c'est ça qui nous protège. Une question à se poser, quelles sont les choses, quelles sont les actions, les paroles qu'on ne ferait pas si d'autres nous voyaient les faire ? Quels sont les sites internet qu'on ne visiterait pas si d'autres nous voyaient faire ? Voilà un principe qui peut nous guider. Il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. En général, les choses qui se font en secret, en cachette, notamment de nos meilleurs amis et de nos conjoints, ne sont pas des bonnes choses. À part préparer un anniversaire surprise, la plupart des choses qu'on cache de nos amis proches et notre conjoint, par exemple, sont des choses honteuses. Il nous appelle, et c'est une protection pour nous, c'est une aide pour nous, de savoir, d'ouvrir, de laisser la lumière jaillir dans notre vie, de garder cette lumière allumée, d'autoriser peut-être un frère ou un sœur de l'Église, voilà, vous agissez comme une lumière dans ma vie, donc aide-moi à rester dans la lumière, à ne pas vivre en cachette. Un autre, il mélange aussi l'image de la lumière et du fruit dans les versets 9. Et versets 9 à 11, il parle des œuvres infructueuses des ténèbres et puis les fruits de la lumière. Et effectivement, il y a un lien entre la lumière et le fruit qui est porté par une plante. Une plante a besoin de lumière, du soleil, pour s'épanouir, pour porter de beaux fruits. Il y a des coins dans le jardin qui sont trop ombragés, et on sait qu'il ne faut pas planter des choses là, où vous avez essayé, et les tomates dans ce coin-là, ça ne donne rien, parce qu'il n'y a pas assez de lumière, il n'y a pas assez de soleil. Et pour nous, dans notre marche chrétienne, le fruit... Il dit, ce n'est pas des tomates, des courgettes, des pastèques, le fruit c'est bonté et justice et vérité. Et quand on est en train de marcher dans la lumière, voilà ce qui produit dans notre vie, bonté, vérité, justice. Quand on n'est pas en train de marcher dans la lumière, c'est tout le contraire qui est produit dans notre vie. Et d'où l'avantage de marcher avec la lumière. Mais certains chrétiens... peut choisir un niveau de vie d'église ou un niveau relationnel avec les frères et sœurs de l'église ou un niveau de lecture de la parole qui permet de rester un peu dans l'ombre. C'est un peu, je préfère mon coin ombragé du jardin, comme ça il y a un peu de lumière, mais je peux aussi faire les choses qui me conviennent. Et il est en train de leur dire non, marchez pas comme ça. Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière. Alors, restez dans la lumière, marchez dans la lumière. Et en tant qu'Église, nous voulons faire ainsi, pas s'arranger une petite vie chrétienne dans un coin ombragé qui nous arrange, mais pouvoir, avec l'aide des autres, vivre à la lumière de Dieu. Plusieurs sont au courant, nous encourageons, il y a plusieurs groupes de croissance, nous appelons quelques groupes ainsi. C'est un frère qui va voir un frère et qui dit, voilà, on veut marcher dans la lumière ensemble. Voici peut-être mes luttes, où je connais les tiens. On peut s'encourager, on peut prier ensemble, on peut lire la parole qui est la lumière de Dieu ensemble. On peut se rencontrer et s'encourager à vivre dans la lumière. Il y a des choses que vous ne pouvez pas partager à tous azimuts dans toute l'Église, mais avec un frère de confiance, ça peut aider à marcher dans la lumière, notamment pour marcher dans la pureté et la sainteté que Dieu demande. Si vous avez des questions sur le fonctionnement de ces groupes de croissance ou d'autres formules qui existent pour vous aider, n'hésitez pas à vous renseigner auprès des responsables de l'Église. Donc ça, c'est marcher dans la lumière. Marcher dans la sagesse, c'est mesurer les temps que nous vivons, le verglas qui peut exister et se dire « je vais faire attention par rapport à ça et ça ». Et ça devient un mode de vie et ça protège de la chute. Marcher dans la lumière, c'est laisser la lumière du Christ, c'est rester dans la lumière pour que les cafards ne reviennent pas. Et enfin, marcher dans l'amour. Troisième principe, et là on revient au premier verset de ce passage, les versets 1 à 7, qui parlent de l'amour. Pas de l'amour comme le monde aime le définir, mais l'amour de Dieu, qui est tout au contraire. Et ça aussi, ça va nous aider à marcher dans la pureté, dans la sainteté. Vous voyez ce qu'il dit dans versets 1 et 2, il dit « Devenez des imitateurs de Dieu ». Marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous. Et puis il enchaîne directement verset 3. Alors que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient même pas nommées parmi vous, ainsi à ce qui convient les saints. Et verset 4, je pense qu'il ne change pas trop le sujet, parce que tout le monde sait que les paroles grossières, les propos insensés, les blagues sales ont souvent des connotations sexuelles débauchées. Donc tout ça, il dit qu'il n'y a même pas un soupçon de ces choses parmi les saints. Alors effectivement, l'éthique sexuelle chrétienne, l'éthique sexuelle de la Bible est très élevée par rapport à ce qu'on peut trouver dans le monde et même dans d'autres religions. Là, c'est très élevé que ces choses ne soient même pas nommées parmi vous. Et il demande aux Éphésiens de vivre ces choses alors que le monde autour d'eux, la ville d'Éphèse autour d'eux est tout le contraire. Mais tout ça, il leur demande de le faire au nom de l'amour. Il dit ça, c'est ça. Se garder de la débauche, c'est ça, marcher dans l'amour. La débauche, c'est tout le contraire de l'amour. L'immoralité sexuelle, c'est tout le contraire du vrai amour. Alors ça peut paraître curieux pour notre monde parce qu'il pense que justement, l'amour, c'est ça. Mais Paul leur donne une définition de l'amour, notamment dans les versets 1 et 2. Il dit « Marcher dans l'amour à l'exemple de Christ ». L'amour, c'est donc en Christ, et on voit le vrai amour dans l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous. Donc l'amour, le vrai amour, c'est un amour qui se donne, qui se sacrifie pour le bien de l'autre. C'est ainsi que Dieu a défini lui-même l'amour à la croix, l'amour en Christ. Le vrai amour, c'est se donner pour l'autre, pour le bien de l'autre, se sacrifier pour le bien de l'autre. Maintenant, prenez ce principe de l'amour et appliquez ça à notre sexualité, notre gestion de notre corps. Paul veut que notre sexualité soit vécue de la même manière. C'est que le vrai amour, c'est se donner, se sacrifier pour le bien de l'autre. Et puisque c'est ça le vrai amour, Dieu a conçu le mariage, un homme et une femme, en lien permanent et exclusif. Et c'est dans ce cadre-là que le vrai amour s'épanouit, se développe. C'est ce cadre-là qui permet d'imiter l'amour de Dieu, un amour qui se donne, qui se sacrifie pour le bien de l'autre de manière constante, permanente. Et Paul va dire que tout le reste, en dehors de ce cadre de mariage, tout le reste est foncièrement égoïste, ou c'est juste pour le plaisir personnel. Et quand on vit comme ça, on ne peut pas dire que c'est l'amour. Et c'est pour ça, de manière intéressante, il lit la cupidité avec l'impureté et la débauche. Verset 3, la débauche, aucune impureté ni la cupidité. Finalement, l'immoralité sexuelle est juste une forme de cupidité où on veut prendre pour soi. Et c'est vrai que l'éthique du monde, aujourd'hui, en ce qui concerne la sexualité, c'est bien simple, c'est « j'ai envie, donc je fais ». Un philosophe disait « l'éthique sexuelle devrait être dictée par la visée du plaisir. Tout reste, c'est mauvais, selon lui. » Donc, il faut viser le plaisir. Et si on empêche les plaisirs personnels, c'est qu'on est en train de se faire du mal et il ne faut pas faire ça. Ça, c'est le monde, l'éthique du monde. Mais ce n'est pas du tout l'amour. Imaginons un monde où tout le monde suit ses pulsions sexuelles à tout moment. Ce ne sera ni l'amour, ni le bonheur, ni la liberté pour personne. Alors qu'aujourd'hui, dans les mœurs, on pousse plus en plus vers un tel monde en disant « toute pulsion sexuelle est normale et bonne, il ne faut pas le freiner, il faut y aller ». Mais évidemment, ça ne peut pas marcher. Donc la Bible nous demande de marcher dans l'amour. Et le contraire de ces choses, la débauche, tout ça, c'est l'amour, le vrai. Si la Bible nous donne ces instructions, ce n'est pas pour freiner l'amour, mais c'est pour nous permettre de développer le vrai amour. Et la meilleure manière qu'on peut s'aimer dans l'Église, s'aimer dans nos foyers, aimer nos enfants, c'est vivre cette éthique biblique, chrétienne. Et c'est ça qui préserve l'unité des couples, l'unité dans les églises, c'est ça qui fait du bien à la génération future. Et ça, tout le monde le sait. Donc, c'est marcher dans l'amour que de faire attention à ces choses. Aujourd'hui, ce matin même, je crois, l'Église protestante unie de France vote la bénédiction sur les mariages homosexuels. Probablement, ça va passer. Alors, moi, à mon avis, le verset 11 et 12 décrivent leur synode pas mal. Mais certainement, ils font ça au nom de l'amour et de la tolérance. Ils pensent que c'est une démarche aimante, accueillante. Mais je suggère que c'est tout le contraire du vrai amour. Mais pour arriver là, c'est ça qui est dramatique, pour que tout un réseau d'églises arrive à là, c'est qu'il y a eu, dans le temps, une série de petits pas de la part des pasteurs et des membres de l'église. Où au lieu de marcher à contre-courant de ce monde, au lieu de mettre un pas devant l'autre dans la volonté simple de Dieu, ils ont quelque part abandonné la marche pour arriver à là. Et ils ne sont même pas en mesure de dire que c'est des œuvres infructueuses des ténèbres quand on est en train de promulguer. Parce que Paul dit bien, verset 5, « Sachez-le bien, aucun débauché, aucun impur, aucun cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Et là, il y a un avertissement solennel pour ces Éphésiens qui pensaient qu'ils pouvaient se dire chrétiens et puis continuer une vie dissoute, une vie païenne comme leur entourage. Il dit non, ça ne marche pas. Si vous êtes chrétien, vous ne pratiquez pas ça, ces choses. Si vous pratiquez ces choses, vous n'êtes pas chrétien. Mais il nous donne un indice, une clé, et j'aimerais terminer avec ça, en verset 5. Sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Finalement, il décrit cette démarche d'idolâtrie. Et celui qui insiste à vivre dans le péché, notamment le péché sexuel, il est en train de dire que finalement c'est quelqu'un qui cherche son salut ailleurs qu'en Dieu, en Dieu de la Bible. Vous savez, à l'époque, il y avait les dieux, les divinités. Et notamment à Éphèse, il y avait Diane, il y avait un grand temple à Diane. Et puis Diane, c'était très lié à Eros aussi. C'était les dieux de l'époque, et donc il y avait leur vie. Était un culte à ces dieux, et le culte à ces dieux, c'était les activités débauchées, sexuelles, qui dénoncent. À Éphèse, la prostitution était une activité cultuelle. Et au service de ces dieux, Diane, Eros et compagnie. Et quelqu'un qui... un débauché, un impur, un cupide, c'est-à-dire idolâtre, finalement, il cherche son salut dans ces dieux-là et pas dans un dieu de la Bible. Et c'est pour ça que Paul peut dire, ces gens-là n'ont pas d'héritage dans la place du royaume de Dieu. C'est parce qu'ils n'ont pas fait de Dieu leur Dieu et leur sauveur. Vous savez, ce n'est pas le péché sexuel qui nous prive du ciel. Sinon, on sera tous privés du ciel. Ce n'est pas notre marche fidèle qui nous mérite le ciel non plus. Sinon, là encore, on serait tous exclus du ciel, parce qu'aucun de nous n'a eu une marche parfaite. Ce qui nous prive du ciel, c'est de ne pas avoir un sauveur. Ce qui nous prive du ciel, c'est de ne pas avoir Jésus comme sauveur et Dieu de notre vie. Ce qui nous prive du ciel, c'est de ne pas avoir sa vie, sa sacrifice qui monte au Dieu. Il dit que c'est comme une bonne odeur quand Dieu regarde notre vie, il ne voit pas quelque chose de moche, il sent quelque chose de bon, comme une bonne odeur qui monte dans ses narines. Ce qui nous prive du ciel, c'est que sa colère tombe sur nous au lieu d'être tombée sur Jésus-Christ. C'est ça qui nous prive du ciel. Donc les chrétiens sont ceux qui ont reconnu leur péché, leurs défauts, leurs faiblesses, notamment dans ces domaines, et qui ont échangé le Dieu Eros pour le Dieu Jésus. Parce que Eros, lui, n'a jamais donné sa vie pour nous. C'est Jésus qui s'est livré pour nous et qui nous pardonne et qui nous aime et qui nous remplit de sa lumière. Et donc quelqu'un qui insiste, tout en prenant le nom de Jésus, à continuer à vivre dans ses activités, au fond, son Dieu, ce n'est pas Jésus, son Dieu reste Eros, parce qu'il pense que Eros peut le satisfaire, Eros peut le combler, peut le guider. Mais nous savons que Eros est finalement un mauvais Dieu, un mauvais guide, et conduit à la débauche. Mais Jésus conduit à la pureté et à la sainteté. Et quand lui devient maître de notre vie, voilà, c'est plus possible de foncièrement marcher dans cette ancienne manière. On peut trébucher, on peut avoir des échecs, mais Dieu nous ramène à lui, nous restaure par le pardon, et nous pouvons marcher autrement que marche ce monde. Alors oui, je vous pose la question, est-ce que vous marchez dans la volonté de Dieu, jour après jour? Si vous avez trébuché, si vous êtes en arrêt, relevez-vous avec l'aide d'un frère et continuez cette marche qui est finalement une marche dans la lumière, dans l'amour, dans la sagesse. C'est la meilleure des chemins qu'on peut prendre.